franceinter.fr.
Bonjour à tous et bienvenue dans Pop Fiction, une émission préparée par Jérôme Boulet et réalisée cette semaine par Céline Illa. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Alors, dans ma grande mansuétude, je pardonne tout le mal que vous avez dit dimanche dernier à propos de mon cher Leonardo DiCaprio, enfin oscarisé à votre grande dame, hein ?
Absolument, ça, j'en suis toute déçue. Non, contente pour lui.
Alors, cette semaine, dans votre chronique, parmi les films qui ont compté dans votre vie de cinéphile, eh bien, vous avez choisi un film de mon cher Billy Wilder.
Absolument, Ariane, comédie romantique délicieuse. Ariane, une fusée qui vous va droit au cœur.
A tout à l'heure, Guillemette.
Ne me regarde pas comme ça, Nicolas.
Angélique de Sens et de Monteloup ne regarde plus les va-nu-pieds.
Oh, tu es ridicule.
La fille du maître a grandi et elle ne veut plus se commettre avec des valets. J'ai pensé à toi chaque jour, chaque nuit, Angélique.
Laisse-moi.
Alors c'est bien ça. Tu t'es laissé vendre, hein?
Tu es fou?
Oui, vendre. Où l'as-tu connu, ton mari? Au couvent?
Je ne l'ai jamais vu.
C'est bien ce que je disais. Madame la comtesse de Pérac.
Monsieur de Pérac est un gentilhomme, le plus célèbre du Languedoc.
Et le plus riche.
Ce n'est pas un mal.
Si je vous dis Angélique, marquise des Anges, que l'on vient d'entendre, Yves Noé, Les Trois Mousquetaires, Le Nom de la Rose, L'Allée du Roi ou encore Caroline Chérie, eh bien vous me répondrez peut-être roman historique, un genre qui rassemble sous son ombrelle des œuvres très variées et que les plus grands écrivains ont exploré, de Balzac à Dumas, de Walter Scott à Flaubert, de Mark Twain à Marguerite Yourcenar. Le roman historique, c'est un genre très populaire, parfois méprisé, quand il s'agit par exemple de romances historiques à la Juliette Binzoni, récemment disparue à l'âge de 95 ans. Nous vous dirons notamment quels sont les ingrédients indispensables à un bon roman historique, et puis nous évoquerons le polar historique avec Jean-François Parot, le créateur du commissaire Nicolas Le Floch, et avec la reine du genre historico-gastronomique, Michel Barrière. Une émission placée sous le signe de la puissante devise des mousquetaires, un pour tous et tous pour un.
France Inter, Ali Rebéi, Pop Fiction.
C'est une Italie très différente parce que mon histoire se passe dans une abbaye bénédictine habitée par des moines qui vient de toute l'Europe, il y a seulement peu d'Italiennes, et qui vit encore dans un milieu qui n'est pas le milieu de villes marchandes qui sont déjà en train de fleurir en Italie. Donc c'est encore un Moyen-Âge un peu arriéré. Et je le dis à un certain point sur le manuscrit que mon auteur, Azzo da Melk, écrit dans le 14e siècle, mais évidemment sa mentalité est la mentalité du 13e, du 12e, et peut-être encore en arrière. Donc, je représente plutôt un dernier Moyen-Âge qui a déjà la conscience qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe en dehors. Pour commencer, les gens commencent à parler en vulgaire, et à ce jour-là, et le livre commence 6 ans après la mort de Dante Alighieri. Donc, lorsqu'il y a déjà une littérature vulgaire, tandis que le moine de mon abbaye continue à parler en latin.
Il professore Umberto Eco, le célèbre auteur du roman historique Le Nom de la Rose, adapté au cinéma par Jean-Jacques Hano avec Sean Connery. Bonjour Mathieu Letourneux.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Professeur de littérature à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, spécialiste des littératures populaires, vous avez notamment publié Fantomas, biographie d'un criminel imaginaire avec Loïc Artiaga, et vous dirigez la revue en ligne Belphégor consacrée aux littératures populaires. Mathieu Letourneux, quelle est votre définition du roman historique? Est-ce que c'est la recréation d'une époque révolue à partir d'une intrigue et de personnages authentiques et ou fictifs?
Oui, comme son nom l'indique, le roman historique, c'est le mariage du roman et de l'histoire. Simplement, il faut bien voir que dans l'association des deux, le roman est premier, c'est pas de l'histoire romancée. Dans le roman historique, toute la question est celle de la fictionnalisation d'une matière réaliste, le réel, l'histoire. Et finalement, ça couvre une gamme de production extrêmement large, hein, extrêmement large, justement, qui conduirait du roman historique extrêmement réaliste, qui prendrait pour objet des événements précis, très, très détaillés, et ça peut aller jusqu'à des formes extrêmement différentes qui seraient celles du récit de KPDP, totalement imaginaire, Michel Zévaco, ou du Ponson du Terrail, si vous voulez. On pourrait même aller jusqu'au western et se demander dans quelle mesure le roman western n'est pas du roman historique puisqu'il se passe dans une Amérique qui est située historiquement.
Alors comme le rappelle votre consoeur universitaire Brigitte Krulik, le roman historique c'est une représentation aux deux sens du terme, à la fois une image vraisemblable de la réalité et un miroir de l'imaginaire, de la culture d'une époque donnée.
Oui, absolument. C'est-à-dire que on voit bien quelle est la tension du roman historique. Dans la tension entre le romanesque, le roman, la fiction et l'histoire, se dit quelque chose des enjeux du roman historique. Si on choisit de ne pas faire de l'histoire directement, c'est parce qu'on travaille la matière de la mémoire collective, de l'imaginaire collectif.
Des stéréotypes parfois aussi.
Des stéréotypes, bien sûr, mais la mémoire est faite de stéréotypes. Les imaginaires sont faits de stéréotypes. Alors on peut chercher à les mettre en cause, à les mettre en crise et à aller contre ces stéréotypes, mais on peut aussi les investir massivement et proposer finalement des récits qui jouent le jeu du stéréotype. Tout l'enjeu du roman historique est dans cette tension extrêmement forte entre le romanesque et l'histoire.
Bonjour Delphine Perras.
Bonjour Ali.
Journaliste à l'Express. En préparant cette émission, vous m'avez expliqué que votre goût pour le roman historique remontait à l'adolescence lorsque vous lisiez la célèbre saga des Rois Maudits de Maurice Druon, mais aussi Angélique hein, de Dan et Serge Gollon.
Oui, Angélique, j'avoue que j'ai un gros gros faible pour cette saga que je lisais discrètement en cours même, sur les genoux, les 10 volumes de la saga, et ça a eu un charme très fort. Ensuite, les Rois Maudits, c'est quand même un autre degré.
On y reviendra tout à l'heure, mais qu'aimez-vous dans les romans historiques, ce genre parfois méprisé?
Justement, je trouve, je rejoins ce que disait Mathieu Letourneux, c'est il y a ce matériau qui parle à tout le monde, ou qu'on apprend, il y a quelque chose vraiment d'instructif, et puis le charme du roman, la dimension romanesque qui est plus dans le divertissement, et c'est un mélange quand il est bien fait, quand il est réussi, qui fonctionne à plein.
L'un des objectifs du roman historique, vous le dites, c'est de divertir, mais c'est aussi de donner l'illusion de voyager dans le temps, c'est un des grands plaisirs du roman historique.
Tout à fait, et puis il y a un côté court d'histoire quelque part. Alors après, tout se pose le problème de la véracité, de ce qui est véhiculé, mais il y a quand même quelque chose, on apprend plein beaucoup de choses.
Bonjour Michel Barrière.
Bonjour.
Vous êtes historienne de la gastronomie, auteur de romans policiers. Votre dernier ouvrage, eh bien, c'est Innocent Breuvage, publié chez Jean-Claude Lattès. Votre enquêteur, c'est Quentin Duménil, maître d'hôtel du roi François Ier. Pourquoi avoir choisi de mettre en scène des polars dans un contexte historique à forte composante gastronomique?
Mais parce que la cuisine ancienne est absolument géniale, inconnue. Et donc mon souhait, c'était de faire partager cette connaissance culinaire à travers des histoires qui se passent dans l'histoire. Et donc voilà, le choix a été vite fait. Le roman, pour toucher le plus grand nombre de gens, et puis aussi parce que justement, ça fait appel à l'imagination, ça fait appel à peut-être des choses un petit peu plus faciles. Et donc pour moi, c'est entrer dans la grande histoire par la petite porte des cuisines. Et en l'occurrence, mes lecteurs, je crois, s'en trouvent pas mal.
Et on se régale, parce qu'il y a d'ailleurs des recettes
bien
à
sûr,
la fin du dernier, notamment Innocent Breuvage. Très vite, autour de la table, quelle est l'idée reçue qui vous agace le plus quand on critique le roman historique Delphine Perras?
Oui, mais c'est précisément la partie romanesque et l'invention, alors que par définition, le roman a cette liberté-là. Et lui reprocher ses inexactitudes ou cette part d'invention me semble pas recevable.
Michel Barrière.
Alors un petit peu dans le monde du polar, c'est vrai que nous, avec nos princes, nos princesses, nos marquis, nos marquises, on fait un peu tâche.
Hein, on est loin du néo-polar, hein,
voilà,
de la série noire.
Voilà, c'est ça,
hein.
Exactement, un peu social, etc. Nous, c'est vrai, je vous dis, on fait un petit peu tâche et parfois, oui, un petit peu, oui, méprisé, c'est vrai.
Mathieu Letourneux.
Oui, moi, il me semble que ce qui est frappant, c'est ces expressions qui consistent à dire ce n'est pas du roman historique. Soit c'est beaucoup plus que du roman historique, soit ça n'est pas vraiment du roman historique. Dans les deux cas, on voit bien que on pose une mauvaise question en se demandant si on est du bon côté de la limite du roman historique.
N'hésitez pas à réagir sur l'appli France Inter et sur franceinter.fr, la page Pop Fiction et sur le hashtag Pop Fiction.
Je ne sais plus vraiment qui je suis. J'ai croisé sur la route un avant-goût de paradis. Mais je vois tomber des gouttes même sous mon parapluie. Break me out. Je ne sais plus vraiment qui tu es. Un nouveau paysage ou bien. Je n'ai pas compris la question. J'aimerais bien qu'ensemble on trouve une autre solution. Je vais vous décevoir, mais je n'aime pas vos convictions. You break me out. Je n'ai pas choisi la bonne vie. J'aurais dû revenir dans le cerveau d'un abruti. J'aurais pris l'apéro avec Marine et ses amis. They break me out. You break me out. Avant que je perde une épaule. You break me out. Raconte-moi ton histoire drôle. You break me out, girl. You break me out.
Mickey 3D en léger différé.
Pop fiction.
C'est un pour tous, D'Artagnan.
Sur France Inter.
Et tous pour un.
Quoi ?
Ali Rébéi.
17h17 sur France Inter, on s'intéresse cet après-midi à un genre populaire, le roman historique qui naît véritablement au 19e siècle avec l'écrivain Walter Scott qui écrivit Waverley en 1814 et surtout Ivanhoé en 1819.
Que le diable emporte ce maudit chevalier à la tête de mort. Pourquoi, sot que vous êtes, ne pas l'avoir tué?
Parce que lui n'était pas sot, monseigneur.
Un Normand peut-il se maintenir sur le trône d'Angleterre quand les chevaliers qui le soutiennent se laissent ridiculiser par un battleur saxon inconnu?
Ce n'est pas un battleur, et encore moins un inconnu. J'ai jouté contre ce même chevalier à Saint-Jean d'Acre, monseigneur.
Alors dites-nous qui il est.
Le favori de votre bien-aimé frère Richard, monseigneur, Wilfrid d'Ivanhoé.
Ivanhoé, il est en Angleterre? Vous l'avez prétendu mort.
Il devrait l'être, et ce sera chose faite dès que nous nous affronterons.
Que fait-il en Angleterre?
Où est-ce qu'il peut trouver la rançon du roi Richard, sinon en pays saxon? Êtes-vous sûr de cela?
Je flaire les pistes comme un furet dans les bois, mais je ne me fie pas qu'à mon nez.
Devant qui Ivanhoé abaissa-t-il sa lance aujourd'hui? Devant une juive nommée Rebecca, qui est la fille d'Isaac d'York, le banquier de sa tribu. Qu'est-ce qu'il veut obtenir des juifs, sinon l'argent de la rançon? Où se cache-t-il? À proximité de la maison où se trouve l'argent, c'est évident.
Alors je vous charge de le trouver, de vous saisir de lui, de tous les hommes qui ont essayé de lui venir en aide.
Leurs femmes aussi?
Leurs femmes, leurs serviteurs, leurs biens.
Ivanhoé de Walter Scott, adapté en 1952 par Richard Thorpe avec Robert Taylor qui interprète Ivanhoé, opposé au méchant Brian de Bois Guilbert interprété par George Sanders, les deux hommes amoureux de la belle Rebecca interprétée par Elizabeth Taylor. Mathieu Letourneux, je rappelle que vous êtes professeur de littérature à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Le roman historique, né au 19e siècle, même s'il existait des embryons dans les siècles précédents, Walter Scott, c'est le premier grand romancier historique?
Oui, Walter Scott, on peut, c'est toujours un petit peu caricatural de trouver un premier, mais on peut dire que Walter Scott est le premier romancier historique parce que c'est vraiment le premier à prendre la matière de l'histoire pour en faire un sujet d'interrogation sur la société contemporaine. Il va le faire dans deux domaines parallèles ou successifs. D'abord dans les romans écossais, Waverley justement, dans lesquels il interroge tout simplement, lui-même est écossais, les raisons pour lesquelles les catholiques ont été dominés par les protestants. Donc c'est l'histoire actuel, hein. Et Waverley, c'est sous-titré il y a 60 ans. Il va poser la même question finalement sur la fondation dans l'Angleterre avec Ivan Noé, qui est le roman de l'opposition entre les Saxons et les Normands. C'est devenu un mythe, hein, Robin des Bois, etc. Bon, Richard Cœur de Lion, etc. Donc dans les deux cas, la question c'est quelle est notre identité collective. Et c'est finalement le problème majeur du roman historique pendant très longtemps que de définir l'identité contemporaine d'une nation, d'une communauté, à partir de son histoire.
Alors Walter Scott a influencé Balzac, Hugo, Thackeray en Angleterre, Gogol en Russie. Chez Flaubert, le héros de l'éducation sentimentale, Frédéric Moreau, rêve d'être le Walter Scott de la France. Et en France, avant 1830, Walter Scott vend plus d'un million et demi d'exemplaires de ses romans historiques.
Oui, le paradoxe de Walter Scott, c'est qu'il aimait pas du tout le roman réaliste britannique du XVIIIe siècle. Il défend le romance contre le novel, c'est-à-dire le roman d'imagination romanesque, et c'est là aussi que le lien entre histoire et romanesque naît, hein. Il défend le roman d'imagination romanesque contre le roman réaliste. Et pourtant, c'est lui qui va fonder en grande partie, parmi d'autres, le roman réaliste européen. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour comprendre le réel, tel que l'entend le réalisme, c'est-à-dire l'actualité, la société actuelle, la société contemporaine, la modernité, eh bien, il faut l'enraciner dans l'histoire.
Alors, dans quel contexte le roman historique naît-il au XIXe siècle ? Le XIXe siècle, c'est le siècle de la montée en puissance des grandes identités nationales.
Ben, en fait, on le comprend immédiatement quand on réfléchit à la situation d'un Walter Scott, par exemple, en 1814, 1819, quand sortent ces grands romans. Qu'est-ce qui s'est passé un tout petit peu avant ? Il y a eu la Révolution française. Qu'est-ce que ça change, la Révolution française ? Avant, une communauté, une collectivité était soudée par son monarque et par un système politique. Et ce système politique était de droit divin. Donc on se posait pas la question de l'identité collective. Et puis d'un seul coup, avec la Révolution française, un problème majeur se pose. Quelle est l'identité de la collectivité ? C'est la nation. Et penser une nation, ça suppose de l'ancrer dans l'histoire. Donc l'enjeu majeur va être celui de l'identité nationale.
Et donc le but des romanciers, des grands romanciers historiques du XIXe siècle, c'est de raconter la nation, de contribuer au grand roman national.
Oui, et c'est un enjeu majeur. En fait, tout roman historique au XIXe siècle est un roman politique. C'est une chose qu'on ne comprend pas, mais même Alexandre Dumas, qui a l'air d'être un auteur léger, est un romancier politique qui montre dans la matière de l'histoire comment se fonde en fait le modèle républicain qui, selon lui, va dominer. La figure la plus frappante pour comprendre ça, c'est Eugène Sue, dans Les Mystères du Peuple. Il raconte l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Simplement pour montrer que la France, c'est nos ancêtres les Gaulois et non pas nos ancêtres les Francs. Pourquoi ? Parce que les Gaulois, c'est la République. Et les Francs, c'est la monarchie. Donc si aujourd'hui on dit nos ancêtres les Gaulois et non pas nos ancêtres les Francs, c'est simplement parce que au XIXe siècle, la mythologie nationale s'est construite sur cette idée. Et le roman y participe largement.
Alors Mathieu Letourneau, il faut quand même rappeler qu'après la Révolution et l'épopée napoléonienne, on assiste à une nouvelle conception de l'histoire. L'histoire donne désormais un sens à la destinée humaine. Pour le dire vite, c'est la vision d'histoire du philosophe allemand Hegel qui prédomine.
Oui, c'est
ça. Avec une vision prométhéenne de l'histoire.
Oui, alors pour Hegel, c'est très compliqué parce que Hegel articule en quelque sorte la raison d'une subjectivité avec l'idée d'une collectivité et le théorique et le pratique. Donc c'est compliqué, mais pour le dire très très grossièrement, l'idée d'Hegel, c'est qu'il y a un mouvement, une rationalité collective qui conduit en quelque sorte à quelque chose qu'on pourrait apparenter à un idéal du progrès, pour le dire grossièrement. Mais qu'est-ce que ça signifie pour le roman historique ? Ça signifie que parler du passé, quand on veut parler du présent, c'est construire l'avenir. C'est donc tisser cette ligne historique qui fait sens. On peut prendre un exemple frappant. Un auteur dont on oublie qu'il est qui se définit comme un romancier historique, c'est Émile Zola. Les Rougon-Macquart, il les définit dans La Fortune des Rougon comme l'histoire du Second Empire. Et il le fait avant la fin du Second Empire. Pourquoi ? Parce que pour lui, ce qu'il doit démontrer, c'est la mort du Second Empire. Et il le dit d'ailleurs au début de La Fortune des Rougon, parce qu'entre la sortie en feuilleton et la sortie en roman, le Second Empire est tombé. Il a dit, ben voilà, j'avais raison. Il dit, j'avais raison, ben oui. C'est ça le roman historique au XIXe siècle.
Alors pourquoi le roman historique est-il par excellence le genre du mythe collectif ?
Eh bien précisément parce qu'il ressaisit l'histoire à travers le roman. C'est-à-dire que dès lors que vous ne choisissez pas l'événement historique, le pur factuel, mais que vous choisissez de le ressaisir à travers l'imaginaire, des personnages de fiction, une trame romanesque avec un début et une fin, vous donnez une signification. Ce qui compte, ce n'est plus tant l'exactitude que d'avoir une forme qui fait sens. Et ce qui donne une forme qui fait sens, c'est le roman.
Que diable vais-je pouvoir faire de vous ? Au lieu d'être mousquetaire, Aramis, vous feriez mieux d'entrer au couvent. Quant à vous, Porthos, vous devriez servir d'enseigne à la boutique d'un tailleur. Où est Athos?
Très malade. Malade mortellement, et j'ai peur.
Il le cuve son vin? Que voulez-vous?
C'est un monsieur d'Artagnan. Il n'a pas de lettres.
Alors pourquoi m'importunez-vous?
C'est un gascon, capitaine.
Faites-le entrer. Tous trois, vous vous prenez de querelle et vous trouvez le moyen de vous faire arrêter par trois gardes de Richelieu qui n'avaient même pas l'avantage du nombre. Le roi en est humilié.
Qui a dit au roi que nous étions en nom royal? On en a menti. Donnez-moi un nom, capitaine, et je taillerai l'homme entier.
C'est Richelieu lui-même qui a raconté l'affaire au roi. Toutes mes excuses, messieurs. Retirez-vous.
Les Trois Mousquetaires adaptés d'Alexandre Dumas, maintes fois adaptés au cinéma. Guillemette Audicino, vous avez évidemment reconnu.
J'ai reconnu Gene Kelly et tous ses copains, mais c'est surtout qu'il y a Milady, qui est incarnée par Lana Turner. Ouais. Mais j'ai le droit de dire ce que je disais hors antenne.
Non, avec des mots choisis peut-être.
Je vais choisir mes mots, je vais dire que c'est l'une des plus belles garces que Hollywood nous ait proposées, effectivement.
Dans le film de George Sidney. Mathieu Letourneau, Alexandre Dumas, c'est celui qui a élevé en France le roman historique au rang de grand art. Et le grand art de Dumas, c'est de rendre l'histoire vivante, colorée, compréhensible.
Oui, il y a un problème avec Alexandre Dumas, qui est probablement un des auteurs les plus sous-estimés du 19e siècle, hein, de façon scandaleuse, mais pas pour rien, c'est-à-dire que lui, il veut faire l'histoire nationale française, et il a tellement de succès qu'on le perçoit par la suite comme un auteur de roman de cap et d'épée, c'est-à-dire comme un auteur de stéréotypes. On a l'impression que présenter un Gascon, c'est présenter un personnage stéréotypé, sauf que quand il le fait, ça n'est pas encore le cas. Et donc, le problème de Dumas, c'est qu'on voit en lui un auteur pour enfants, parce que c'est un romancier historique de l'histoire nationale française, mais qui écrit avec un tel sens du romanesque, et surtout de la voix de l'auteur, qu'il comprend que la question de la séduction, la question de la causerie vers le lecteur est une question fondamentale. C'est vraiment un des auteurs qui invente l'écriture moderne du romanesque qui va donner toute la littérature d'imagination des 19e et 20e siècles.
Et puis rappelons que dans les romans de Dumas, la véritable héroïne, c'est la France.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors Mathieu Letourneau, c'est le roman feuilleton qui popularise le roman historique au 19e siècle. Pourquoi est-ce que la forme du feuilleton, eh bien, c'est la forme idéale du roman historique?
Là, alors, il y a plusieurs, on peut donner plusieurs réponses. La première réponse qu'il faut donner, c'est que le rythme du feuilleton est un rythme inscrit dans le temps, inscrit dans la temporalité. Et il ne faut pas oublier que le roman historique a deux temporalités différentes. La temporalité du roman, qui est fermée, qui s'achève, hein, qui a une conclusion, et puis la temporalité de l'histoire, qui ne s'achève pas. Et donc ce mouvement du feuilleton, qui consiste à, dans le fond, donner une moins grande importance à la clôture du récit qu'à son prolongement, et on sait aujourd'hui avec les séries télévisées par exemple, eh bien ce mouvement est un mouvement qui est adapté à la structure de cette temporalité historique qui suppose que ça peut continuer. C'est ce qui explique également, par exemple, que par la suite, les romans historiques ont donné lieu à des sagas en plusieurs volumes, parce que de la même façon ça se prolonge.
Delphine Perras.
Oui, c'est le cas de tout à fait des Rois maudits, hein, qui a été publié de alors pas sous la forme de feuilleton, enfin de 55 à 77, c'est quand même un temps très très long et qui, on le sait, il l'a dit à plusieurs reprises, a inspiré George R. R. Martin pour le Trône de Fer, tout à fait. Donc c'est un, moi j'ai été très très marquée par cette saga qui, en plus, un ami historien me le rappelait récemment, Maurice Druon a pris un grand soin pour faire des recherches, justement pour soigner la véracité historique, c'était, et puis pour restituer la vie quotidienne de ces rois maudits, les mœurs, hein, précisément à l'époque où l'école des annales était à son apogée. Donc c'est intéressant de voir aussi la façon de procéder de la part des auteurs en fonction d'une période.
Michel Barrière.
Oui, moi je veux dire, en tant qu'historienne, je suis un pur produit justement de cette histoire des mentalités. Et c'est vrai que déjà moi personnellement, je me dis mais comment faisait-il, était-il, qu'est-ce qu'on entendait, qu'est-ce qu'on voyait vraiment. Et c'est ça, moi, que j'essaye de faire passer justement dans mes romans avec tous ces petits détails, mais que je vais chercher jusqu'au bout des récits de voyages, tout ça, enfin, et qui permettent justement de donner l'ambiance de du d'une scène, d'une ville, et où même je vais sur place quand c'est possible, hein, pour me nourrir de tous ces, même si c'est actuel, dans l'architecture, dans des choses, on trouve. Donc voilà, moi, et aussi ce mouvement, justement, c'est l'aventure, c'est le fait de mettre les gens, justement, sur un, alors, ça dure le temps d'un roman, mais c'est vrai aussi que nous, auteurs, là, on a tous des séries, justement, qui dit série, c'est qu'on va retrouver ces héros et qui vont nous faire vivre encore d'autres choses. Donc, je trouve que justement, c'est un. Alors oui, c'est du passé, mais c'est vraiment la vie.
Michel Barrière, je rappelle que vous avez écrit Innocent Breuvage, les enquêtes du maître d'hôtel de François Ier.
Vous nous quittez bientôt, monseigneur. Je vous assure que le plus beau est encore à venir. Vous pouvez peut-être tourner le dos à Scaramouche, monseigneur, et vous ne vous enfuirez certainement pas devant André Moreau.
Scaramouche, vous venez de donner votre dernière représentation.
Un extrait de Scaramouche en 1952, le célèbre film de Cap et d'Épée de George Sidney avec le héros de mon enfance, Stewart Granger. Un film adapté du roman de Raphaël Sabatini. Mathieu Letourneux, le roman de Cap et d'Épée, c'est un sous-genre du roman historique qui suscite l'engouement du public au 19e siècle et au 20e siècle également. Parmi les grands auteurs de romans de Cap et d'Épée, on peut citer Paul Féval, Michel Zévaco, Sabatini, bien sûr. Quelle est la particularité du roman de Cap et d'Épée?
Alors, pour le dire simplement, le roman de Cap et d'Épée, c'est un roman qui prend pour arrière-plan l'histoire, mais pour en faire le simple décor d'aventures extraordinaires. Pour Sabatini, c'est compliqué. Sabatini est aussi un historien et quelqu'un qui est soucieux d'histoire. Quand on lit ses romans, on voit qu'il se situe vraiment entre les deux. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans le roman de Cap et d'Épée, comme le nom l'indique, il suffit de mettre une cape et donner une épée, et on est dans le décor. Et c'est un petit peu ça, et... Un des soupçons souvent dans le roman historique, face au roman historique, hein, quand on a un stéréotype face au roman historique, c'est que dans le fond, le roman historique, c'est toujours une cape et une épée, et ma foi, quelques personnalités qui passent ça et là.
Guimet Odissino, vous disiez quoi, Rantaine, sur Stewart Granger?
Oh non, vous êtes pas gentil. Ben je disais que dans le que moulé dans son collant,
dans Scaramouche,
il a un petit peu des grosses cuisses, mais ce qui n'empêche qu'il soit aérien tout de même.
Ne tuez pas l'ennemie de mon enfance.
Et Scaramouche est enfin avec les Trois Mousquetaires, mais c'est aussi l'un des plus beaux technicolores de l'époque.
N'hésitez pas à réagir sur l'appli France Inter et sur franceinter.fr à la page Pop Fiction et sur le hashtag Pop Fiction.
I may have overslept my bounds. I probably should resume my rounds. Now Dr. Feo goes back in town.
Son Little sur France Inter.
France Inter. Ali Rebéi. Pop Fiction.
17h34 sur France Inter. Tout à l'heure, Guillemette Odissino reviendra sur Ariane, un film méconnu de Billy Wilder. En attendant, poursuivons notre exploration d'un genre très populaire et parfois méprisé par certains esprits snobs, le roman historique. Le générique du célèbre feuilleton Les Rois Maudits en 1972, réalisé par Claude Barma et adapté de la célèbre saga de Maurice Druon, Les Rois Maudits, vous le disiez tout à l'heure, Delphine Perras de L'Express, qui ont fortement inspiré l'auteur du Trône de Fer, Georges Martin. Alors c'est une saga publiée entre 1955 et 1977, et qui a connu un immense succès public. Maurice Druon met en scène une période méconnue du grand public, spectaculaire, riche en événements, à savoir la fin du règne de Philippe le Bel et les tragédies liées à sa succession.
Oui, avec cette fameuse malédiction de Jacques de Molay, donc le grand chef des Templiers. Il y a en plus c'est une période qui à mon sens est assez méconnue. C'est pas Louis XIV. Donc c'est très intéressant.
Qu'est-ce que ça vaut littérairement?
Ah, c'est formidable. C'est un style extrêmement prenant. Il y a pas de lourdeur. Moi, j'ai le souvenir de. J'ai été très très marquée par. Je n'entrerai pas dans les détails, mais dans le tome 5, la Louve de France, la mort d'Édouard II, donc qui était roi d'Angleterre, qui était marié à Isabelle de France, et sa mort est décrite par Maurice Druon d'une façon extrêmement réaliste et crue. Et je l'ai encore. J'ai dû le lire il y a une vingtaine d'années. Je l'ai encore en mémoire. Mais je laisse les lecteurs la découvrir. S'ils ne la connaissent pas. Non, c'est très réaliste. Et il avait ce souci de la précision avec des personnages très incarnés.
Et Mathieu Letourneux, quelle place détiennent les Rois Maudits de Maurice Druon dans l'histoire du genre en France?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette idée selon laquelle, finalement, alors qu'en France, le genre est quand même relativement délégitimé, il y a de temps en temps des auteurs qui réinvestissent le genre et qui prennent une position littéraire. Et Druon était un auteur qui était reconnu.
Il ne travaillait pas seul, paraît-il. Voilà.
Dumas non plus, et pourtant ça n'empêche pas que c'est un très grand écrivain. Mais non, une chose quand même sur Druon, c'est qu'il y a une dimension politique pour lui. Druon conçoit ses grandes sagas comme des grandes sagas politiques, et il ne faut pas oublier cette dimension chez lui.
Michèle Barrière, historienne et romancière. Sur les Rois Maudits.
Ah ben moi ça fait partie justement de la construction de mon imaginaire et puis aussi de cette envie de redonner au lecteur. Bon, mais il y a aussi Robert Merle qui a fait
Fortune de France.
Et moi qui m'a complètement émerveillée. Et puis il y a aussi moi je sais les séries télé, Thierry Lafronde, un peu des trucs comme ça, enfin qui ont vraiment été super importants, même s'ils étaient complètement. Alors là sur le plan historique, là on n'en parle pas. Et voilà, toute cette construction, bien sûr, les rois maudits.
La particularité peut-être des Rois Maudits, c'est qu'il met en scène des véritables personnages historiques. Il n'y a pas de personnages inventés. C'est là où c'est très fort. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment à incarner des personnages qui ont existé. Il leur prête des traits. Après, il y a une part d'imaginaire et de création. Mais c'est quand même très, très fort d'accrocher le lecteur comme ça sur.
Et de toute manière, quand on prend un personnage historique, il faut déjà l'apprivoiser, hein. Moi, je vois justement dans le dernier.
Innocent Breuvage.
Oui, Innocent Breuvage. J'ai Rabelais comme médecin légiste, parce qu'il ne faut pas oublier, effectivement, il était médecin. Mais s'attaquer à Rabelais, si je puis dire, pour en faire un personnage de roman, ça n'a rien d'évident. C'est-à-dire que vraiment, il faut tourner autour du truc et puis en faire un vrai personnage à partir, bien sûr, de ce qu'il était, mais aussi un être vivant qu'on voit bouger, qu'on voit manger, bien sûr, boire. Ça, c'est un véritable travail.
Alors, après le succès immense d'Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell en 1936, on assiste à une floraison de romans historiques qui mettent en scène des héroïnes, Mathieu Letourneux. tourneux, des romans historiques à forte connotation sentimentale. Je pense bien sûr à Angélique, la célèbre marquise créée par Serge et Anne Gaulon, mais aussi à Caroline Chéry de Jacques Laurent.
Oui, en fait, il y a une rupture majeure qui se produit à ce moment-là, c'est que le roman historique était vu en France comme un genre masculin, pour les hommes, devient un genre plus féminin par l'influence des anglo-saxons. Donc, Autant en emporte le vent va produire cette rupture et va voir apparaître toute une série de romans historiques, de sagas historiques présentant des héroïnes, mais pas seulement dans une perspective sentimentale, dans une perspective sentimentalo-érotique, on va dire, pour l'époque. Hein. Aujourd'hui, on le perçoit peut-être moins, mais c'est des romans sulfureux à l'époque. Alors, il y a Angélique, il y a Caroline Chéry, et Caroline Chéry, c'est un roman vraiment intéressant, c'est Jacques Laurent, sous le nom de Cécile Saint-Laurent qu'il fait, c'est un roman érotique, un peu sadien, qui parle d'une femme émancipée mais qu'on maltraite. Mais ça dit autre chose de façon masquée. Ça dit que la Révolution française, dans laquelle des gens ont changé de bord, se sont mal comportés, la Révolution française, c'est la même chose que la Seconde Guerre mondiale. Et Jacques Laurent, qui a eu quelques ennuis pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, sans jamais parler de la Seconde Guerre mondiale, parle de sa situation. Et c'est une chose dont on ne prend pas vraiment la mesure quand on lit aujourd'hui Caroline Chéry. En fait, c'est un roman politique.
Alors après la Seconde Guerre mondiale, le roman historique à connotation érotico-sentimentalo-historique plaît à un lectorat essentiellement féminin. Juliette Benzoni fut l'une des papesses du genre.
Je choisis en général une époque et puis je l'étudie. Dans cette époque, je prends mes deux héros comme sorte un peu d'un fil conducteur pour visiter cette époque, mais en même temps, il faut que leur histoire s'accommode de la grande histoire. C'est une sorte d'exercice assez amusant d'ailleurs.
La voix de la romancière Juliette Benzoni, récemment décédée à l'âge de 95 ans, qui était considérée comme la papesse du roman sentimentalo-historique, pas très érotique, hein, avouons-le. 86 livres publiés entre 1962 et 2016, ces romans mélangés histoire d'amour et grande histoire. Une romancière historique assez méprisée, Delphine Perras.
Oui, comme Françoise Bourdin également, qui touche un très très large public.
Mireille Calmels.
Pardon,
Mireille Calmels
également, et bon, c'est tout le problème aussi du best-seller, hein, qui est par définition un peu tenu à distance. Mais
comment expliquer son immense succès à Juliette Benzoni?
Je crois que pareil, il y avait ces recherches, elle le dit bien. Elle écrivait avec un matériau très solide, des personnages aussi forts, de femmes, même si la dimension érotique était beaucoup plus nuancé, mais c'était sérieux. Enfin voilà, c'est ça qu'on oublie dans ces romans. Il y a du sérieux, c'est du beau travail.
Mais Mathieu Le Tourneau, le roman historique reste encore un genre assez méprisé. Je cite par exemple Pierre Journe, hein, que j'aime d'ailleurs beaucoup. Le roman historique n'est qu'un réalisme abattardi. Je pourrais également citer l'écrivain et éditeur Charles Danzig. Je crois impossible d'écrire un bon roman historique, ou alors il n'est pas historique. Et puis certains fustigent le côté bal costumé du roman historique, pour reprendre l'expression de Marguerite Yourcenar, l'auteur des Mémoires d'Adrien.
Oui, c'est plus difficile en France de faire du roman historique que dans les pays anglo-saxons, parce que dans les pays anglo-saxons, le romanesque n'a pas aussi mauvaise presse qu'en France. Moi, je dirais que la tradition littéraire française est toujours suspicieuse au XXe siècle par rapport au modèle, ce qu'on appelle le modèle référentiel, c'est-à-dire la façon de parler de la réalité du monde de façon trop transparente. Et en particulier quand il s'agit de faire de la reconstitution. Mais d'ailleurs, c'est vrai aussi au cinéma où on devient très vite soupçonneux. Le roman historique, il souffre de deux travers. D'un travers romanesque, c'est de l'épopée, il y a des grands sentiments, il y a des aventures, et ça, c'est mal vu dans la littérature française. Et de son côté, documentaire, documentation soignée. Quand Benzoni dit « Moi, je raconte des histoires d'amour en me documentant, et je ne comprends pas pourquoi on ne reconnaît pas mes romans », elle ne se rend pas compte qu'elle donne, en quelque sorte, les bâtons pour se faire battre par la critique française.
Delphine Perras, le roman historique, c'est un genre qui connaît un immense succès en librairie. Des romans historiques, il y en a pour tous tous les goûts et dans des styles très différents. De Chantal Thomas, le prix Fémina pour Les Adieux à la Reine, en passant par François Chandernagor, qui avait connu un immense succès avec L'Allée du Roi et qui nous avait ébloui avec La Chambre. Et on pourrait citer Jeanne
Jacques
Bourin,
aussi, Christian Jacques,
Ken Follett, Tracy Chevalier, Hilary Mantel.
Il y a des best-sellers dans ce domaine qui sont très impressionnants. Ce que je constate aussi, c'est l'opportunisme de Bonne Guerre, hein, de pas mal de romanciers qui profitent de commémorations. On le voit avec 14-18, il y a énormément de romans. Alors celui de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, qui a eu le prix Goncourt il y a 2 ans, n'était pas forcément motivé par cette commémoration. Mais il y a des dates comme ça qui sont et on le voit aussi avec le 300e anniversaire de la mort de Louis XIV. Et le roman historique aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle l'exofiction. C'est-à-dire que de plus en plus de romanciers, c'est très frappant, s'inspirent de faits réels, enfin de faits historiques, et réinterprètent. Et là, on n'est même plus dans l'invention de personnages. C'est presque des biographies romancées. Alors, je ne sais pas très bien dans quel registre ça se situe, si c'est une prolongation du roman historique, si on peut en parler.
Ça sera l'objet d'une autre émission.
Tu veux tourner le soir, peut-être mieux que moi, oui.
Michel Barrière, vous venez donc de publier Innocent Breuvage chez Jean-Claude Lattès. Dans votre roman, Quentin Duménil, le maître d'hôtel du roi François Ier, mène l'enquête. Comment travaillez-vous la matière historique? Comment équilibrez-vous fiction et faits historiques?
Ah bah ça, alors là justement, oui. Bah, si, alors en tant qu'historien, c'est dramatique, parce que souvent, moi j'ai envie d'en dire plus, beaucoup plus, parce que ça me passionne, c'est formidable. Mais je dis stop. Parce que le lecteur n'a pas forcément envie de tout savoir, tout. Après tout, s'il a envie, eh ben, il va aller chercher. Donc, c'est c'est comme une recette de cuisine, hein, justement. Hein. Il faut vraiment des ingrédients très précis. De la recherche, oui, pour montrer, pour que ce soit solide. Et puis après, de pas trop en mettre. Et puis que l'histoire elle-même puisse vivre. Donc. Voilà,
c'est... Dans votre Innocent Breuvage, c'est vrai qu'on n'est pas accablé par la profusion de détails qui font bal costumé, hein, pour reprendre l'expression de Marguerite Yourcenar.
Oui, j'espère. Mais en même temps, j'espère aussi qu'on sent à travers l'époque qu'on est avec François Ier, puisque là, il y a son fils qui meurt, qu'on puisse voir un petit peu...
Le dauphin François.
Oui, le dauphin François, oui, qu'on croit empoisonné, bien sûr, par Charles Quint, parce que Charles Quint, c'était l'ennemi absolu, et en fait, pas du tout, il est mort d'une mort tout à fait naturelle. Mais toujours est-il qu'un pauvre garçon va être accusé et ma foi, ça va mal se terminer.
Et c'est Quentin Duménil, maître d'hôtel de François Ier, qui mène l'enquête avec Rabelais.
Mais oui, je vous dis, moi j'ai embauché Rabelais, ça tombait bien, il était à Lyon, moi mon affaire se passe à Lyon, donc voilà, donc je suis allée le chercher, donc je vous dis, ça n'a pas été facile de le débaucher, enfin quoique avec quelques chopines, on y arrive. Et puis après, alors, là, ça veut dire que moi j'ai dû relire toute l'œuvre de Rabelais, j'ai dû la relire 3 fois quand je faisais ce roman, c'est-à-dire vraiment à la fois de m'imprégner parce que la plupart des choses qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il a écrit. Mais alors là aussi, il ne faut pas que ça fasse paf, oui.
Hein, plaqué artificiellement.
Bien sûr, donc il faut arriver à ça. Et oui, bonjour, le travail. Mais en même temps, c'est super. Enfin, moi, je vais pas. Ces temps de recherche sont absolument extraordinaires.
En France, c'est la collection 10-18 qui a donné ses lettres de noblesse au polar historique avec sa collection Grand Détective. Son plus célèbre enquêteur, eh bien, c'est Nicolas Le Floch, commissaire du roi dans le Paris du XVIIIe siècle. Le générique de la série Nicolas Le Floch, diffusé sur France 2, imaginé par Jean-François Parot, dont le dernier polar historique vient de paraître chez Jean-Claude Lattès, L'Inconnu du Pont Notre-Dame. Bonjour Jean-François Parot.
Bonjour.
Ou plutôt bonjour Monsieur l'Ambassadeur, parce que vous êtes diplomate.
Bonjour, l'ambassadeur au bout du quai, à la retraite.
Alors vous avez créé le célèbre Nicolas Le Floch. Comment est né votre célèbre commissaire qui évolue donc dans le Paris du XVIIIe siècle? Et quelle est votre méthode pour allier intrigue policière et érudition historique sans nous assommer?
Eh bien, écoutez, j'ai commencé à écrire alors que j'avais près de 50 ans, donc ça a été une attitude très, très longue avant d'y arriver. Et en fait, j'étais spécialiste du 18e siècle. Donc, étant dans un pays relativement lointain et sans d'ailleurs aucune documentation, j'ai écrit les deux premiers livres.
Sans documentation.
Sans documentation, parce que ça fait, ça faisait à l'époque 40 ans, que 30 ans que je lisais des livres sur les 18e siècle et que j'étais, au fond, par un goût d'amateur, un spécialiste de l'histoire de Paris au XVIIIe siècle.
Michel Barrière, vous pourriez travailler sans documentation ?
Ah, pas du tout. Ah non, moi j'en serais incapable.
Jean-François Parot, que nous raconte l'inconnu du pont Notre-Dame, votre dernier polar historique ?
Oh, il raconte le problème d'un crime qui est effectivement lié aussi à une situation politique particulière qui est celle de la France à la veille de la Révolution. Vous savez, j'ai toujours pensé que cette période était assez mal enseignée à l'école, que cette période était prise entre parenthèses, entre le roi Soleil et la Révolution, et qu'il fallait un petit peu expliquer les choses. Alors j'ai pris ce héros qui va traverser le demi-siècle et qui va être un de ces personnages qui va voir arriver la Révolution française. Mais on ne le sait pas. On est là et on voit cette comédie humaine, cette société qui, peu à peu, roule vers ce grand tremblement de peuple qu'était et qu'a été la Révolution française.
Alors le grand point commun entre Michel Barrière et vous, Jean-François Parot, c'est la gastronomie, la nourriture très présente dans vos ouvrages.
Oui, mais ça c'est parce que je trouve que dans beaucoup de romans, eh bien, on oublie que le personnage vit. Il vit, il mange, il se lave, il aime, et il se trouve que le XVIIIe siècle est un moment tout à fait particulier, parce que c'est le moment où on se bat, il y a une polémique entre la nouvelle et l'ancienne cuisine. Dans les mêmes termes que le combat qui a eu lieu dans les années 60, quand Gou et Millau ont lancé la nouvelle cuisine.
Merci beaucoup Jean-François Parot. L'inconnu du pont Notre-Dame vient d'être publié chez Lattès. Alors on consacrera d'autres émissions aux romans historiques. Un mot quand même sur les grands romans historiques que vous recommandez autour de la table. Allez, Mathieu Letourneux.
Moi, Raphaël Sabatini, tout Raphaël Sabatini, y compris ce qui n'est pas traduit en français. Eh bien, parce que, par exemple, il y a une deuxième partie de Scaramouche qui inverse complètement le récit Scaramouche. Je vous la recommande, The Kingmaker.
Guillemette Odissino, je crois que vous avez un goût particulier pour roman de Régine Desforges, une saga de Régine Desforges.
Je ne l'ai pas relu depuis que je suis une grande fille.
La bicyclette bleue.
Mais la bicyclette bleue à l'adolescence, c'est à la fois une certaine éducation historique et érotique.
Mon
et
Dieu, moi, je comprends, Guillemette.
Mais je l'ai
lu aussi, j'étais en sixième, vous savez.
Mais dans les romans policiers, historique, il y a une merveille et peu de gens savent que Agatha Christie a fait un seul et unique roman historique qui se passe dans l'Égypte antique qui s'appelle La mort n'est pas une fin. Moi, ça m'a donné ensuite envie de tout lire sur l'Égypte. La mort n'est pas une fin, c'est un grand Agatha Christie.
Michel Barrière.
Un auteur tout à fait actuel, contemporain, Frédéric Lenormand, qui met en scène Voltaire enquêteur, et c'est particulièrement jouissif.
Delphine Perras.
Moi, j'ai justement pour revenir sur cette variante du roman historique, j'ai été fascinée par Louis Roy de Ed de Castro, qui est paru en septembre à l'Iconoclaste et qui fait parler, c'est le monologue de Louis XIV, c'est les 17 jours de sa fin de vie, et ça reconstitue d'une façon merveilleuse et très forte, et on comprend tout le règne de Louis XIV à travers c'est pas un grand livre en plus, il est pas très gros. Il y a la Montespan, il y a Madame de Maintenon, c'est très très réussi.
Merci à tous d'être venus dans Pop Fiction. Merci beaucoup Michel Barrière. Je recommande Innocent Breuvage chez Jean-Claude Lattès. C'est un très très beau livre également. La France à table, publié aux Arènes, un magnifique livre-objet. Merci également Delphine Perras de L'Express. Et je vous ai dit merci Mathieu Letourneux, ben merci à vous d'être passé aussi. Hein, et on peut vous retrouver sur votre revue en ligne Belphégor. Je vous invite à y aller, c'est très intéressant.
Maurice Chevalier, the most famous love detective in Paris, who kept a box score on every game that was ever played.
He's certainly the most handsome man in your files.
He's certainly the most utterly no good.
He's got such an American face, like a cowboy or Abraham Lincoln.
You know what happened to Lincoln? and right in the middle of a performance.
Un extrait d'Ariane de Billy Wilder, tourné en 1957 avec Gary Cooper, Audrey Hepburn et Maurice Chevalier. J'ai tout compris, Guillaume Antonissimo. Moi qui suis nul en anglais, j'ai tout compris.
On aurait pu croire que c'est Jean Dujardin qui parle, mais non, c'est Maurice Chevalier.
Et donc, Ariane de Billy Wilder est un film qui a marqué votre vie de cinéphile.
Oui, et c'est un film qui continue à marquer ma vie, parce que c'est un chef-d'œuvre incroyablement utile. Parce que quand on est cinéphile, Ali, on aime partager, évidemment, et on aime un peu faire le malin. Aussi. Donc, on veut pouvoir conseiller un film à un collègue de bureau de 50 ans ou à sa fille de 18 ans, de la même manière, en étant certain à 100% qu'à la fin, ils vous diront oh, « Merci. Merci, grâce à toi, je ne suis pas passée à côté de cette merveille. » Donc, bon, on peut se monter du col un peu quand même. Bon. Donc là, j'espère que vous entendez l'assurance dans ma voix. Ariane de Billy Wilder, c'est du tout cuit. C'est du plan sûr, c'est la recommandation sans appel. Je vais le faire comme à la Bernard Pivot, vous savez, comme il le faisait de temps en temps pour certains des livres sur le plateau d'Apostrophe. Voilà, chers auditeurs, si vous êtes déçus par Ariane, je vous rembourse le DVD.
Ça sera ponctionné sur votre cachet. Hein.
Bon, chers auditeurs, soyez quand même sympas. Si vous achetez le DVD, ne prenez pas ni le coffret luxe, ni le coffret collector. On sait jamais quand même. Alors, comme vous le savez sûrement, ce grand coquin de Billy Wilder était plutôt film noir ou comédie satirique. Il n'était pas très conte de fées. Deux seuls contes de fées, il tourna. C'est joli quand même. Deux seuls contes de fées, il tourna. Et ça m'agace qu'on retienne toujours Sabrina.
Ah, vous n'allez pas attaquer Sabrina, attention.
Eh bien si. Attaquez.
Je vais égratigner.
Voilà, avec une épée mouchetée, c'est ça qu'on dit. Donc, Sabrina a réalisé 3 ans auparavant, déjà avec Audrey Hepburn, cette divine créature dont Billy Wilder disait, je cite, « À elle seule, cette fille est capable de faire de la poitrine une valeur démodée. » Qu'est-ce que j'aime ça. Mais Sabrina, allez, donc, j'ose vous le dire, Ali, c'est un film un peu longué. Et un tout petit peu mièvre. Alors qu'Ariane, c'est un mélange parfait d'humour et de romantisme, et c'est surtout le film de Billy Wilder qui rappelle le plus qu'il fut scénariste pour Lubitsch. Alors, dans un Paris à la Doisneau, bâti par Alexandre Trauner, une délicieuse ingénue, et donc la fille d'un papa détective privé qui est Alexandre Maurice Chevalier, et cette délicieuse ingénue va tout faire pour conquérir le millionnaire le plus coureur de jupons de la planète. Tout simplement. Alors comment elle va s'y prendre, Ali, cette délicieuse ingénue? Eh bien, elle va faire mine, bien sûr, d'être encore moins sentimentale que lui. Ce grand dadé, il va marcher. Donc c'est Ariane, c'est le marivaudage le plus intelligent et gracieux qui soit, avec entre autres une contrebasse comme métaphore de la virginité. Une bonne dose, donc, de sous-entendus sexuels, des litres de champagne et des running gags hilarants, comme par exemple un orchestre zigane qui suit Gary Cooper partout, y compris sur une barque ou au hammam. Alors, je n'y étais pas, hélas, mais je le sais. Sur les murs de son bureau, Billy Wilder avait affiché la question suivante. Comment Lubitsch aurait-il écrit cette scène? Alors, quand on découvre Ariane, ensuite, on a le droit d'afficher dans son salon comment Audrey Hepburn aurait-elle dragué ce mec? Vous voyez, le mec que vous voulez là. Suivez l'exemple d'Audrey. Alors certes, Audrey, surtout habillée en Givenchy, c'est un ange, une apparition, un cadeau du ciel hollywoodien. Mais tout de même, Ariane est le film qui vous fait croire que les tombeurs peuvent aussi tomber amoureux et surtout que le cynisme est soluble dans le romantisme. Alors oui, pour ça, je suis prête à casser mon PEL pour rembourser les incrédules.
Merci beaucoup Guillemette Odissino. À la technique ce soir, il y avait Julien Chabassu et Alexandra Bergel. Programmation musicale Thierry Dupin. J'aimerais remercier infiniment Jérôme Boulet qui fut l'artisan indispensable de Pop Fiction. Jérôme Boulet qui devient le chargé de réalisation de l'Instant M de Sonia De Villers. Cher Jérôme, je te souhaite tout le bonheur possible dans tes nouvelles fonctions. Bonsoir Philippe Collin.
Bonsoir Ali Abbaye.
Quoi de neuf dans l'œil du tigre après le journal de 18h?
Ce soir on parle girl power, toutes ces jeunes femmes qui ont pris le pouvoir à la télévision, à la radio pour commenter le sport. En fait, non. Elles ne commandent toujours pas les matchs en direct, les filles. Alors pourquoi? Quelle raison? Pourquoi elles ne prennent pas la place des mecs pour commenter les matchs en direct? On répond à ça dans 10 minutes, Ali.
A tout de suite, Philippe Collin.